Radio Spirale. En décembre 2010, le regroupement des arts interdisciplinaires du Québec recevait en conférence Françoise Sullivan, peintre, chorégraphe et signataire du Refus Global. La conférence était précédée de deux communications de Mario Côté et Louise Derry.
Françoise Sullivan, d'avoir accepté de participer aux 5 ans du RAIC. C'est dans le cadre d'un événement bénéfice qui souligne les 5 ans du RAIC qu'on a pensé à rendre hommage à Françoise Sullivan. Je suis Lise Gagnon, je suis la directrice du RAIC. Hier, on avait une soirée bénéfice à la Sala Rossa où une vingtaine d'artistes présentaient des œuvres, performances, vidéos, musique qui rendaient hommage au travail de Françoise Sullivan. Et aujourd'hui, on a 3 personnes, Mario Côté, André-Maud Côté, qui vont nous parler du travail de Françoise Sullivan. Je vais présenter brièvement Françoise, Mario, Audrey Maud et Louise Derry, qui devait être ici aujourd'hui, mais qui, pour des raisons personnelles importantes, ne peut pas y être. Françoise Sullivan, sculpteur, peintre, danseuse, chorégraphe, a étudié à l'École des beaux-arts de Montréal de 1941 à 1945. Elle a étudié ensuite la danse. En 1946, elle sera étudiée la danse à New York avec Francisca Boas et Martha Graham et Louis Horst. En 1948, elle publie un essai sur la danse dans le manifeste du Refus Global. Danseuse et chorégraphe novatrice, avec sa collègue Jeanne Renaud, elle modernise radicalement la danse telle que pratiquée à l'époque à Montréal. Son spectacle « Danse dans la neige » qui a été filmé et photographié en février 48, présenté dans les Champs de Saint-Hilaire, ouvre la voie à la pratique contemporaine qui consiste à monter des spectacles de danse dans des décors non conventionnels. Et il faut dire que la danse dans la neige est vraiment une œuvre qui a marqué l'imaginaire de plusieurs artistes. Et on va en parler longuement aujourd'hui, notamment de la danse dans la neige, mais aussi des autres danses, parce que le projet de Françoise, au départ, c'était de faire une danse par saison, danse de l'été, du printemps, de l'automne, de l'hiver. En 49, elle décide de s'adonner à la sculpture. Elle étudie le soudage à l'École technique de la Chine. Alors, on voit que c'est une femme libre et qui n'hésite pas à changer de discipline et à vraiment passer des arts visuels à la danse et maintenant à la sculpture. Elle crée une sculpture monumentale pour l'Expo 67. Au début des années 70, elle entreprend des projets d'art conceptuel et les années 80 marquent un retour à la peinture. À partir de 1977, elle enseigne à l'Université Concordia pendant 32 ans. C'est ça, 32 ans. Les étudiants étaient vraiment choyés d'avoir une professeure comme Françoise. Elle a créé tout de même de nouvelles œuvres chorégraphiques pour des danseurs indépendants dans les années 80. En 87, elle reçoit le prix Paul-Émile Bordua et une rétrospective de ses œuvres est organisée au Musée des beaux-arts de Montréal en 2003. En 2005, elle se mérite le prix du gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques pour... Là, c'est écrit ses exploits artistiques, mais on peut dire ses exploits artistiques, oui, c'est ça, pour ses œuvres. Je vais vous présenter Mario Côté. Mario Côté s'intéresse particulièrement aux rencontres entre les disciplines artistiques, mais aussi entre les individus qui les pratiquent. Initiateur de plusieurs collaborations dans le domaine de la vidéo expérimentale, dont Blanc, Noir ou Rien avec Jeanne Renaud en 2010, Les Saisons Sullivan en 2007 et Dédale en 2008 avec Françoise Sullivan encore. Mario Côté pratique ce que l'on pourrait appeler un départage disciplinaire entre peinture et vidéo, et cela sans pourtant sans pour autant vouloir les réunir ou les confondre. Je m'excuse, je me suis couchée à 2 heures hier soir. Une importante rétrospective de son travail portant le titre « Tableau » a été présentée au Musée d'art de Joliette en 2002 et cette exposition a été produite par la commissaire indépendante Nicole Gingras. Depuis 1994, il enseigne à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM et il est membre actif au sein d'Hexagramme UQAM. Louise Derry, qui devait être ici, je vais vous la présenter puisque c'est André Maude qui va lire le texte que Louise Derry a préparé pour aujourd'hui. Alors, Louise Derry dirige la galerie de l'UQAM depuis 1997. Détentrice d'un doctorat en histoire de l'art, elle a été conservatrice au Musée national des beaux-arts du Québec de 87 à 92, ainsi qu'au Musée des beaux-arts de Montréal, 92 à 95. Dans les années 90, elle a travaillé avec de nombreux artistes tels que Dominique Blain, Raphaël de Grotte, Anthony Gormley, Nancy Spero, Michael Snow, etc. Elle a publié plus de 50 catalogues d'expositions, dont 3 qui sont consacrés à François Sullivan. Elle a été la première récipiendaire du prix d'excellence pour le commissariat en art contemporain de la Fondation Yanitichin. Comment dire ce mot, en fait? Et retenue à l'extérieur, elle ne peut pas être présente, malheureusement. Et c'est André Maude Côté, qui est une des danseuses des Saisons Sullivan, qui va lire le texte que Louise Derry avait préparé. Alors, je vous présente André Maude. Formée à l'École supérieure de danse du Québec, 90 à 98, André Maude débute sa carrière au sein des Grands Ballets canadiens pour ensuite séjourner à Vancouver. De retour à Montréal en 2002, elle devient membre fondatrice du collectif BBT. Elle participe aussi aux productions vidéo comme danseuse et chorégraphe avec Les Mauvaises Pensées, co-réalisées par Mario Côté et Christine Marneff, ainsi que pour Les Saisons Sullivan où elle interprète Le Printemps, une réalisation de François Sullivan et Mario Côté. Depuis quelques années, l'intérêt pour la chorégraphie l'amène à redéfinir sa gestuelle à travers des collaborations multidisciplinaires et lui permet de développer les notions de narrativité entre la danse et la vidéo. Alors, après cette présentation, je laisse la parole à nos conférenciers. Oui.
Je crois que peut-être ce serait peut-être bien de commencer par la lecture du texte de Louise Derry. Va donner, je pense qu'on, voilà, je vais parler devant le micro. On va commencer avec la lecture du texte de Louise Derry qui va aborder un aspect du travail de Françoise et son texte, vous allez voir, en tout cas, se situe un petit peu d'une façon indisciplinée par rapport au thème de la journée.
Bonjour. Donc, ça s'adresse à Françoise, bien évidemment. Non? Ah oui, ça va être... C'est préhistorique comme micro. Dire Françoise. Je commence par une anecdote. Monique Régimbal-Zébert et moi avons écrit, publié en 2003, un livre intitulé « Françoise Sullivan, la peinture à venir », portant uniquement sur sa peinture du moment. Comme Monique était alors en Europe, pour quelque temps, elle nous a envoyé son texte par la poste. Il commençait comme ceci. « Puisque tu n'y es pas, me disait Louise, écris-nous une lettre. » Je reprends la formule de Monique pour excuser mon absence et j'offre à Françoise cette lettre puisque j'y ne suis pas. J'ai voulu le faire pour lui dire tout d'abord que je l'aime et que j'aime en elle l'ami très rare, l'artiste, la femme, la personnalité qu'elle incarne dans la société du Québec, du Canada et d'ailleurs, car en elle... dans bien des cœurs et des esprits qui se trouvent non seulement ici, à New York, Bruxelles, Paris, Athènes, Toronto, Ottawa et ailleurs. Je voudrais ajouter ceci comme second préambule qui concerne l'invitation qui m'a été faite de traiter du caractère disciplinaire de son œuvre. Je vais être très dissidente, pas complètement, mais presque. J'aimerais dire que la figure de Françoise sur notre scène artistique est tellement forte, colossale, impressionnante, historique, que cela fait en quelque sorte écran au regard attentif que nous devrions porter sur tous les aspects de sa pratique. Certes, son travail est interdisciplinaire, car elle a tout fait. De la danse à la création chorégraphique, de la photographie à la performance, de la peinture à la sculpture. Mais outre cette généralité mille fois exprimée par tous ceux qui se sont intéressés à Françoise et écrit sur elle, je trouve que nous considérons son œuvre de façon trop macroscopique. Qui plus est, son lien à Bordua et aux automatistes, il y a plusieurs décennies, fait tellement pression sur la lecture que nous faisons de son travail que cela la prive de quelque chose. De quoi s'agit-il? Eh bien, cela la prive d'une analyse plus outillée et mieux définie sur ce qu'elle fait en ce moment. En ce moment même, que fait-elle? Françoise fait de la peinture. Elle en fait presque exclusivement depuis 1980. Regardez pourtant ce qui s'est écrit sur cette peinture depuis lors, et surtout depuis 1995, alors que l'abstraction a conquis sa peinture. Vous constaterez que c'est assez mince. C'est pour cela que Monique et moi avons fait ce livre sur les tableaux de 2000 à 2002. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce texte précisément sur cette peinture abstraite et chromatique qui glisse du rouge au bleu, au noir et puis au rouge qui revient et parfois au jaune et encore au rouge. Ce que fait Françoise en peinture est important pour elle. Voilà pourquoi, Françoise, je ne ferai pas ce que l'on m'a demandé de faire ici, car je ne veux pas parler de ton passé d'artiste, je veux parler de toi au présent. Pour ton activité présente, et pour cela, je parlerai uniquement de ta peinture, en puisant dans ce texte la peinture en devenir que j'ai écrite en 2002. Voici. À son corps défendant, Françoise Sullivan peint. Depuis le portrait d'un oncle esquissé naïvement au cœur de sa jeunesse et encore conservé dans l'atelier, jusqu'au tondeau et cycle crétois des années 80, depuis les éclats de rouge et la série des bleus, ces dernières années jusqu'à ce présent, qui voit naître dans l'atelier d'immenses toiles lumineuses. Françoise Sullivan peint, à son corps défendant, et cette peinture-là n'est pas négociée, n'est pas jamais arbitrée. Souveraine, elle se construit à travers une série de devenirs. De l'un à l'autre, chaque tableau requiert le prochain pour trouver son terme. Chaque tableau a besoin du suivant pour respirer, pour exister. Chaque tableau oscille entre son unicité propre et son statut progressif au sein de la séquence picturale. La pratique de cette peinture-là se réinvente à chaque moment dans le travail de l'œuvre à venir. Disons-le tout de suite, toute position doctrinaire à l'égard des derniers tableaux de Sullivan est impossible. Elle serait ridicule. Il faut pouvoir regarder ses œuvres, qui entêtent le regard, avec soumission. Il faut pouvoir écrire à l'oreille pour s'approcher de cet espace pictural. Cet espace pictural que je qualifie sans hésitation d'enchanté. Bien sûr, le besoin d'élucidation accompagne la posture quasi estatique de Sullivan quand elle travaille à ses champs de couleurs. Elle s'attache à la production représentante de la peinture elle-même et prolonge, en ce sens, le projet d'affranchissement d'un médium aujourd'hui libéré par la modernité de la fonction de redoubler le monde. Ici, le statut de fiction tridimensionnelle de tableau peint continue parfois de s'exercer dans ces tableaux, c'est que la figure, empêchée au départ, surgit avec force dans l'espace pictural comme une grande tuile d'ombre. Le combat que lui livre Sullivan pour exténuer ses potentialités et dissiper sa puissance la réduit à une forme souvent fuyante qui se brouille dans le toucher de la peinture et échappe en bordure. Cette attitude conforte notre peintre dans une volonté de s'inscrire dans un certain état de la peinture abstraite. Mais un tableau sans image et sans figure est-il pour autant abstrait? François Sullivan reste farouchement engagé envers l'idée que la peinture ne saurait qu'être conçue. Il faut avant tout qu'elle soit vécue. Ainsi, elle ne peint pas comme une technicienne de savoir théorique qui saurait davantage comment assurer le brio de la peinture. Devant le tableau, il me semble que Sullivan retrouve un état premier qui aurait peut-être à voir avec cette forme de sublimation du monde primitif et des mythes anciens que sa pratique de chorégraphe, de danseuse, de sculpteur et de peintre n'a eu cesse de relayer. Entre Paestum et la Crète, entre Saint-Hilaire et New York, comme une trame continue dans sa pratique d'artiste, la présence de cet élan inaugural du rythme ancien traduit quelque chose de l'ordre de l'empreinte première, celle du corps et du mouvement, et celle quelque chose de l'ordre de l'emprise, celle du sang et du rythme. Chez Sullivan, visible dans ses pratiques du voir, du faire et du dire, un rythme très ancien fait image. Il se tient au fond de la peinture. Cette empreinte, pour faire lever la peinture, pour qu'elle jaillisse, il faut accepter de travailler le dépouillement. Il faut retrouver l'empreinte première. Partant de là, l'œuvre de Françoise Sullivan s'élabore de manière heuristique. Elle s'édifie sur des hypothèses cumulées, sur des couches de peinture superposées qui s'additionnent, mais sans entraver ce qui pourrait être nommé comme l'antériorité de la couleur. Derrière la surface visible, là où le cœur de la peinture bat. Dans le pacte quasi-épiphanique qu'elle entretient avec la couleur, Françoise Sullivan travaille le corps pictural non pas comme une fenêtre sur le monde, mais plutôt comme une scène où s'accomplit par fines couches et par fines touches l'avènement de la peinture. Le mouvement de cette peinture est double. Pour l'artiste, il agit dedans et avec le tableau. Pour celui qui le regarde, il agit dedans et devant le tableau. La peinture, fertile, produit de l'emphase, de l'extase. Le souffle est présent, énergique et grand. Mais paradoxalement, il se produit une sorte de dissection de son effet qui donne corps à la touche, au toucher, au motif, jusqu'à être une mosaïque davantage qu'un champ uniforme. Certains tableaux offrent au regard l'apparence d'un monochrome. Dès que le corps à corps advient dans la proximité et la frontalité des nuances, émerge la surface, complexe et agitée. La peinture de Sullivan est issue des mouvements du corps tout entier qui s'est déplacé devant le support et qui a réglé la mesure et le rythme des gestes répétés. Elle a progressé en fonction de la respiration, de la portée du bras, du va-et-vient du regard en face de la matière. Ces enjeux, portés par deux rythmes fondamentaux que sont le cardiaque et le pulmonaire, qui ramène à l'avant-plan l'expérience de danseuse, de chorégraphe, de Françoise. La couleur ne peut échapper au langage, mais c'est ici celui du corps. Les tableaux de Sullivan sont des immensités flottantes qui semblent défier la loi de la gravité. Lorsque plusieurs sont présents ensemble dans l'atelier, ils produisent des reflets de couleurs qui se répandent. Leur lueur s'épanche, ensemence les pleins et les vides environnants. Le lieu de la peinture éclate dans l'espace, recrée d'autres échelles que celles propres de l'architecture, de l'atelier ou de la galerie. L'idée de l'installation est bien réelle, amenant l'artiste à ne pas se séparer si facilement de l'un ou de l'autre tableau au profit de regroupements en polyptyque qui défient les chronologies au profit de la cohérence picturale. Les tableaux, au sein de l'atelier tout blanc de Sullivan, sont voués à un régime de lumière. Pour nous, merci Françoise.
Merci Louise. Merci André Maud. Je vais reprendre une expression de Louise, parler au présent. Je trouvais vraiment cette expression-là très à point, très juste, pour peut-être introduire les saisons Sullivan. On nous a souvent dit, vous avez refait Danse dans la neige. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, je vais répondre affirmativement non. Nous n'avons pas refait. Nous avons créé de nouveau, nous avons recréé, Danse à la neige, le printemps, l'automne et l'hiver et l'été. Je vais poser une question à Françoise, mais j'aimerais peut-être juste introduire un tout petit peu, puisqu'on parle d'interdisciplinarité. Je crois que, pour moi, il y a quelque chose d'absolument important au point de départ. Il y a un désir d'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a ce souhait de réaliser un projet. Ensuite, il y a des individus, des individualités qui sont réunies. Et qui ont décidé de s'impliquer, de se donner à ce projet commun-là. Et les saisons Sullivan représentent pour moi vraiment un cas, ou en tout cas une expérience absolument extraordinaire, où il y avait ce point de départ qui était cette œuvre emblématique qu'est « Danse dans la neige », qui était ce désir d'œuvre, l'avoir un jour, puisque le projet de départ était... Oui, une performance, mais aussi un projet filmé. Et bon, voilà, je commence déjà à raconter là. Françoise peut-être vous donnera plus de détails tout à l'heure. Donc, il y a cette idée de mettre en commun, d'associer des individus autour de ce projet commun. Il y a 4 danseuses aussi. Hein? Il y a Ginette Boutin, l'hiver. Il y a Annick Hamel pour l'été. Il y a Louise Bédard pour l'automne, et il y a André Maud-Côté pour le printemps. Et après ça, bon, je vous énumérerai pas tout le générique, mais il y a aussi toute l'équipe technique. Alors vraiment, cette idée de mettre en commun, de travailler autour de cette œuvre-là, était quelque chose d'absolument fantastique. Mais voilà la question, Françoise, ça a commencé par quoi? Où? Danse dans la neige, 1948.
Mais ça a commencé en 1947. Aux Escoumins. J'étais là en vacances avec mes parents pour une semaine ou 10 jours. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent les Escoumins, mais c'est un endroit très beau, sur la côte nord, passé Tadoussac. À ce moment-là, c'était très loin, en 47, pour se rendre là. On prenait le bateau 3 pistoles pour traverser à 5 heures du matin, ou bien on prenait un traversier pour traverser le Saguenay. Et c'était un endroit, un petit village, une baie, avec deux rues, une rue par-dessus l'autre, des maisons blanches. Il y avait une rivière et où on faisait la drave parce qu'il y avait des camps de bûcherons derrière les Escoumins et on apportait les bio et les bateaux venaient prendre les bio. Et de l'autre côté, c'était une baie. De l'autre côté, il y avait une fine pointe, à peine un sentier qui menait. Un amas de grosses roches arrondies par les vents et les marées, de granit rose. Et c'était un endroit presque idyllique, dans la mer. Pendant le temps où j'étais là, j'ai passé mon temps sur cette plage, qui n'est pas une plage, qui était... Oui. Et il m'est venu l'idée de danser là. Mes parents avaient un appareil pour faire du cinéma. C'était une Bolex à ce moment-là, avec les bobines qui durait 3 minutes, alors il fallait changer à tous les 3 minutes. C'était un peu compliqué, mais c'était une chose rêvée. J'ai demandé à ma mère de me photographier pendant que je dansais. Je m'inspirais du lieu, de l'endroit. Il y avait les petites vagues, c'était une journée absolument superbe de début juillet. Je je voyais les petites vagues qui se brisaient contre les roches et il y avait des anémones et je me suis étendue sur une de ces grosses roches et j'ai comme si j'étais endormie et je me réveillais et je parcourais l'endroit et je dansais tout simplement. C'était juste le plaisir d'être là et de danser et d'explorer le lieu. J'arrivais jusqu'à faire de grands sauts d'une roche à l'autre et puis finalement et je dirigeais ma mère, je lui disais où se tenir pour et elle n'a jamais dit que c'était son œuvre. Je pense qu'il y en a qui vont connaître ce problème. En tout cas, à la fin, elle changeait complètement de lieu et moi, je me dirigeais le long du sentier qui, au lieu d'être... Je me souviens très bien des couleurs qui étaient le rose du granit, le bleu ou vert de la mer, vert ou proche et bleu ou plus loin. Et le soleil prenait sur moi, ça éclatait. Et le sentier, par contre, était en terre, brune, avec quelques mauvaises herbes, un petit cabanon gris, brun, et qui allait et qui partait. Puis il y avait des collines, quelques collines, pas très hautes au fond, et je me sentais partir là comme un oiseau des mers qui s'en va. Tout ça, ça se passait dans mon imagination. Et c'était le film qui avait comme un début, un centre et puis une fin. Et mais j'ai pensé alors, mais pourquoi pas faire les films à toutes les saisons? Par contre, c'était compliqué à organiser. Là, c'était venu spontanément, mais l'automne est passé, puis je n'ai rien fait. Et un soir, j'étais avec des amis, mes amis automatistes, et il y avait Jean-Paul Riopel qui était revenu de Paris avec Françoise, sa femme, pour la naissance de leur première fille. Et ils avaient loué une petite maison à Otterburn Park, au pied du Mont Saint-Hilaire. Et ils étaient là, cette soirée-là, et ils me demandaient qu'est-ce que j'avais fait de bon. Alors, je lui raconte le film, et puis je lui dis que j'aimerais bien en faire un dans la neige. Et spontanément, comme ça, il me dit, mais viens demain. Viens demain, mais je ne suis pas préparée, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché, qu'est-ce que je vais porter? Il va faire froid. Bon, maillot, bottes après-ski, la jupe de pratique. C'était une jupe, je voulais quand même des vêtements qui soient anonymes, qui ne représentent pas une mode d'une certaine période. Alors, un chandail, une jupe qu'il fallait, des gants, mais la jupe que je faisais moi-même pour pratiquer dans la danse moderne à ce moment-là, c'est ce qu'on portait. Alors je mets tout ça dans un sac et je prends l'autobus et j'arrive et on passe une belle soirée là. Il y avait Maurice Perron qui était là aussi et je crois qu'il restait souvent à la maison des Riopel. Il passait pas mal de temps là. Alors, le lendemain matin, je donne la caméra à Jean-Paul et puis on s'en va. Et Maurice nous suit, Maurice Perron. J'étais un peu surprise parce que je lui en avais pas parlé. Mais Riopel avait dit, on s'en va dans la campagne. Alors, on a marché très loin dans la campagne. Et puis, jusqu'à ce que je trouve un endroit où qui pouvait être inspirant. Et alors, j'espérais un endroit où on ne voyait aucune, où on ne verrait aucune trace de civilisation, aucune trace de la main d'homme. Mais, découragée, alors j'ai commencé, on voyait un petit peu au fond des champs et puis un petit brin de clôture. Mais après ça, on ne voit plus rien. Et il y avait eu une pluie. Ah, pour vous dire la date, c'était le 28 février. Ça, on est en 48. J'ai commencé à danser un peu, puis après ça, poursuivre encore la route. Et là, j'ai trouvé un endroit idéal. La pluie était tombée sur de la neige, mais il avait gelé et très fort après, et la neige était très, très dure, très glissante et très drue et même piquante par endroit. Mais là, ça n'avait plus d'importance. Là, c'était un endroit qui me semblait presque ailleurs que sur la terre, presque lunaire, et c'était un endroit à explorer, et c'est ce que j'ai fait. J'inventais des mouvements, et puis j'allais avec le sol. C'était un peu comme un dessin d'une ligne qu'on suit, que je suivais. Et puis, ça s'est passé. Alors, c'est comme s'il y a aussi encore la trois périodes. La période où on voit un peu moins de neige, puis des buissons. Après, on ne voit plus d'arbres. C'est un paysage qui est presque irréel, qu'on voit rarement, mais qui était magnifique. Et puis après, c'est arrivé à un autre paysage où on voit un arbre, et puis les mouvements deviennent plus doux. Mais ça a pris toute la journée, et tout à coup, c'est comme si c'était la fin, et on a réalisé qu'on avait froid, puis il fallait retourner, mais on était comme dans un autre état, comme enchanté, comme si on était passé dans un endroit magique, et puis on était vraiment exalté, mais on avait froid. Alors on est retourné à la maison, ce qui a pris pas mal de temps d'arriver à la noirceur. Puis on a essayé de retourner le lendemain. C'était plus la même chose. La magie n'était plus là. Et puis, mais c'est ça c'est la danse dans la neige. Et heureusement que Maurice Perron a pris des photos. Et c'est exactement du même point de vue que Rio Pelle. Ils étaient côte à côte, épaule contre épaule, quand ils photographiaient. Et mais le film, j'avais pas de projecteur. Et un jour, des amis m'ont invité à aller voir avec leur projecteur. C'était beaucoup plus tard, c'était en 57. Je suis allée avec Patterson, on était ensemble, et c'était Luce Guilbeault, l'actrice, et son compagnon. Oui. Et il faisait du cinéma, et il m'a dit, mais il y a quelques accros, est-ce que tu voudrais me les laisser pour que je fasse un montage? Je l'ai laissé et puis il l'a perdu. Il a perdu les deux films. Alors ça, c'est l'histoire. Je rêvais aussi de faire le printemps, que je rêvais de faire dans le Vieux-Montréal, sous la pluie. Je voulais le faire sur la rue Saint-Jacques. Et puis, pour le faire sur la rue Saint-Jacques, il faudrait le faire très tôt le matin. J'ai jamais réussi à organiser ça. Alors, ça n'a jamais été fait. Puis, rencontrer Mario. Et, oui, c'était à Bruxelles.
Oui.
Mmh. On était là pour une exposition organisée par Louise Derry. Mmh. Et Mario et moi étions allés au musée. Mmh. Et on avait pris un café ensemble. Et il m'a demandé de lui parler de Danse dans la neige. Je lui ai raconté ce que je vous ai raconté. Et il a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le referait pas? Et c'est comme ça que ça a commencé.
Oui, c'est exactement ça. Vous imaginez, bon, vous voyez, Françoise me raconte cette histoire qu'elle vient de vous raconter. On ne peut pas faire autrement qu'être complètement fasciné et se dire... Bon, pourquoi ne le ferions-nous pas? C'est-à-dire, pourquoi n'achèverions-nous pas cette œuvre qui a été faite en 48, puisqu'elle a été un peu suspendue. Elle est un peu suspendue dans le temps, comme ça. Et elle est, je crois, formidable, d'un potentiel incroyable. Je crois que tous les gens qui voient les photos de Danse dans la neige sont toujours éblouis ou impressionnés par la force de cette œuvre-là. Mais ensuite, il fallait la réaliser. C'est toute une autre chose. Je parlais de désir, mais après ça, il faut comme rentrer dans la réalité de la production. Françoise parle de réaliser le printemps sous la pluie, ça va, mais sur la rue Saint-Jacques, vous essayerez de réaliser, de bloquer la rue Saint-Jacques aujourd'hui. Ça coûte une fortune en termes de location, etc., etc. Peut-être qu'on pourrait raconter l'ordre dans lequel on a réalisé les saisons. Évidemment, on a commencé par l'hiver. Et il fallait bien commencer par l'hiver. Et, je te laisse... comment as-tu procédé pour retrouver... cette chorégraphie, on pourrait dire gelée dans le temps, quand même plusieurs années plus tard, et la repenser, la refaire, retrouver ses gestes, retrouver ses mouvements, parce que ça s'est fait à l'atelier, dans ton atelier, Françoise.
Dans l'atelier, alors j'ai travaillé à ce moment-là avec Ginette Boutin, avec qui j'ai beaucoup travaillé, alors c'était un terrain connu. Et j'essayais, d'après les photographies, puis d'après ma mémoire, de recréer. Mais comment recréer quand il s'agit, quand le paysage est si important et on n'a pas trouvé le même paysage. Et de toute façon, je travaillais dans l'atelier à ce moment-là. Et en janvier ou février, je me souviens pas là combien de temps on a travaillé. J'essayais les mouvements, mais après il fallait trouver l'endroit. Mario et moi, nous sommes allés à Saint-Hilaire, à Tobin Park. Impossible de trouver le même endroit.
C'est avec la neige.
Avec la neige. C'est après là. Il fallait trouver le lieu. Mais on n'a pas trouvé. C'était peut-être construit maintenant, après tant d'années. Il y a des changements qui se font. Alors, Mario a trouvé un endroit, une carrière, où il fallait pas voir de maison, il fallait pas voir de poteaux électriques, de téléphones, il fallait rien voir. de ça, mais on a trouvé quelque chose, finalement. Le paysage était différent. Et puis, on espérait pouvoir le faire la même date, le 28 février. Il n'y avait pas de neige. Pas de neige depuis assez longtemps. Alors, impossible de travailler. Finalement, la semaine de mars, une tempête extraordinaire arrive et un froid absolument terrible. Mais c'était déjà au mois de mars, on s'est dit, il faut le faire. Alors, les conditions ont été très, très dures. La neige était très profonde. Et puis, le lieu était complètement différent. Il y avait la pente où je descends, mais il y avait une pente, mais elle était glissante, elle était toute en glace. Alors,
sur la neige, vraiment, il n'y avait pas de neige. Hein? Et on avance, vous savez, c'est toujours complexe là, de mobiliser une équipe de tournage, tout ça, c'est quand même beaucoup de gens qu'il faut mobiliser. Alors, il reste une semaine et on a décidé, on fait le tournage le week-end. Il n'y avait pas de neige encore. Mais je ne sais pas, on s'est même dit, invoquons Saint-Hilaire. Et il a neigé dans ce week-end-là. Alors, je ne sais pas.
Mais c'était une neige profonde et puis un froid de loup. Alors, je peux dire que dans tous les cas, les quatre saisons, les interprètes ont été de courage extraordinaire. Alors, pour la danse dans la neige, vous pouvez voir que on a assez bien retrouvé le costume, assez semblable. Et pour les autres, il fallait que ce soit pas trop différent. Alors, il y avait toujours une robe, une jupe.
Oui. Gilles.
C'est aussi une suite photographique de Marion Lampré. Vous n'en avez pas parlé encore, mais j'aimerais savoir un peu comment vous avez procédé pour les photographies.
Merci, Gilles. Le coffret.
C'est le coffret, mais nous avions une photographe qui était en maîtrise, Marion Landry, et qui a pris des photos tout le temps pendant tout le projet. Alors, il y a des photos absolument merveilleuses de ça, qui sont que Louise Derry a réunies dans un très beau coffret, et vous pouvez peut-être les regarder avec les gants. Oui.
Il faut dire que le projet des Saisons Sullivan, en tout cas de Danse dans la neige, on connaît le projet par les photos, faites par Maurice Perron. Et c'est beaucoup par ça qu'on a connu ou qu'on connaît, ce sont les seules traces qu'on a de Danse dans la neige. Alors, le projet comme tel, il s'agissait de faire le film, oui, le film perdu de Jean-Paul Riopel, mais aussi de relancer le projet photographique, le projet d'un album photographique qui compléterait le projet, puisque le projet est constitué de photos et d'un film. Et la série de Maurice Perron comprend 20, oh là là là, peut-être Gilles pourra nous dire, Françoise, 21 photos, une vingtaine de photos, l'album présent, bon évidemment il y a les quatre saisons, il comprend une soixantaine de photos, plus des dessins de Françoise, des dessins faits en atelier.
Vous avez aussi chance de consulter les grimoires dans les années 80 ou des années 40. Est-ce qu'il y avait des gens dans la, à la tournage de la première film qui avaient la chance de parler avec nous pour la deuxième production?
Est-ce que on aurait consulté Maurice Perron, Jean-Paul Riopelle n'existe plus, sont décédés. Ils sont décédés. Le témoin.
Oui. Oui. Il y a le seul témoin, ce serait Isidre Riopelle qui avait 2 mois à ce moment.
Mais il y a quand même, il y aurait Guy Bormans qui est encore vivant, qui a touché à la pellicule, qui a vu les documents, donc ce serait un autre témoin qui, mais ça fait un bon bout de temps.
Il y a eu longtemps des gens qui ont cherché, et finalement c'est l'historienne Rose-Marie Arbour qui a rejoint Guy Bormans et qui lui a parlé et qui a dit oui, c'est vrai, l'histoire que je raconte est vraie.
Je ne sais pas si, Gilles, tu me permets, parce que d'ailleurs, je l'avais apporté. D'ailleurs, moi, je vous conseille La comète Automatis. Il y a un chapitre absolument fabuleux, extraordinaire, sur justement le projet de Danse à la neige et toute l'originalité du projet de Danse à la neige. Je crois qu'il y a vraiment une originalité. Gilles a fait une recherche pour voir est-ce que dans les pays nordiques, il y aurait eu d'autres types d'intervention. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, on parlerait de performance, mais en tout cas de danse dans la neige. Et je crois que Gilles est arrivé à la conclusion que le projet de Françoise est unique. Je dirais aussi, si je pourrais continuer, je vais répondre, mais je vais continuer sur le film. Vous savez, on repère le premier film de danse en 1945 avec Maya Deren. Alors, vous voyez, 45 au Québec, 48, on aurait le premier film de danse et en plus, réalisé par Jean-Paul Riopelle. Et François Célibat. Oh là là! Oh oui. Mais il semblait avoir une objection là, sur dans la neige et le projet de l'hiver. Il y avait une question?
Oui, oui.
Exact.
Il y avait des projets aussi dans le. Mais pas particulièrement dans la nuit. Il y a un qui était dans une bande d'Espagne.
Exact.
Exact.
Dans cette période-là, avant les années 50.
Alors, les photos de Danse dans la neige sont en ce moment à New York, exposées au MoMA, dans une exposition qui. Intitulé Online. Vous l'avez vu?
Je connais le projet.
Oui. Alors, l'exposition, le titre Online vient de Kandinsky, qui avait écrit sur la ligne. Mm-hmm. Oui. Oui.
On a parlé beaucoup de choses techniques, on a parlé de l'imaginaire, de tout ça. Mais...
Pouvez-vous parler plus fort?
Je pense que je veux parler anglais français parce que mon français n'est pas très fort. On a parlé beaucoup de la making of, the Four Seasons puis tout ça, mais I'm very interested in the interdisciplinarity, the relationship between the video and the dance, the two mediums, and what does it signify to you? Because you said something important at the beginning, the first dance that you did, the winter, you went into the field and it was a happening. It just happened and your mom documented it. So it was really a performance that happened to be documented, and it wasn't a performance to the camera. Whereas the repetition of it, it was actually happening to the camera. So the relationship between it is completely, I mean, I see it different, but I'm interested in knowing how you see it. And you said you were constantly talking about magic, like there's a, which for me, I was like, okay, that's the presence, which you can only get once, and because happenings don't happen again. And absolutely. So how do you see the time-based medium as the video medium, and dance, which is also the happening, which is also time-based and ephemeral? And how the video medium sort of, does it heighten the work or does it document it? Is there a relationship with the camera or is it independent?
It was different because there were movements that were set and practiced, except that there had to be changes. Sometimes they were changed because of the elements. The elements made things change. The snow, the landscape of the snowy landscape was different. She couldn't do the same things. In the rain, it had to deal with the rain, the slippery road. In the fall, the apples, we had gone the day before, the trees, the orchard was full of apples. There had been a big wind and all the apples were on the ground. Extremely difficult to dance on apples.
Est-ce que, parce que là c'est la danse et l'environnement, c'est la danse in situ, mais est-ce que la danse et la vidéo, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce qu'il y a une influence? Est-ce que la danse est différente parce qu'elle est filmée? Est-ce que c'est, oui. Il y a une chorégraphie différente parce qu'on est une danse en vidéo?
Oui, et puis aussi à cause des lieux, des circonstances. No, it's completely different. But yes, I think so. I think it does. And there was Mario who was doing the filming. He was the directing. You were directing it, and so that was different. There, it was very improvised. I was trying to direct at the same time as I was doing the experience. It was very different. Mm-hmm. And then we had an équipe. We had a sound person. We didn't hear very much the sound on the extracts, but there were sounds, local sounds. In the summer, we could hear the bees, the crickets, the cracking on the ground.
J'aimerais ajouter quelque chose. Ok. Oui, mais j'aimerais ajouter quelque chose, puis peut-être aussi demander à André Maud de répondre, puisqu'elle a l'expérience d'être devant la caméra. Je dirais une chose, il y a ces deux positions très différentes du danseur sur une scène qui est vu, qui n'est pas vu, je dirais, là, j'allais dire, qui est vu par une assemblée, et on sait, bon, il y a ce mur qui fait qu'on ne peut pas identifier une personne, donc il regarde le quatrième mur. Donc, il danse, je dirais, devant l'inconnu. Danser devant une caméra, c'est complètement une autre position, un autre positionnement. On se sent, on sait qu'on est regardé. Je crois qu'il y a une différence assez importante. Bon, l'exemple qu'on peut donner, c'est quand arrivent des gros plans. Bon, pour avoir fait d'autres projets, bon, avec Jeanne, Renaud, bon, d'autres projets aussi avec Françoise, puis avec d'autres danseurs, c'était un problème pour des danseurs qui n'avaient pas cette expérience de la caméra. Alors, leur expression du visage ne disait rien, parce qu'on sait que sur scène, on est très éloigné, puis on n'a pas à exprimer quelque chose par le visage. Mais avec une caméra, tout est visible. Tout est visible, et surtout si on fait un gros plan du visage et que la personne n'a aucune expression, ou si elle regarde la caméra, etc., etc. Donc moi, je pense que ça positionne différemment le danseur face à qui regarde. Et dans ce cas-ci, la caméra. Parce qu'après, on pourrait parler aussi de toutes les, au niveau du montage, les effets, tout ça, mais je pense qu'il y a d'abord cet élément-là qui distingue le danseur sur scène et le danseur devant la caméra. Mais j'aimerais entendre André Monde, puisqu'elle a cette expérience de la scène et cette expérience aussi d'être devant la caméra.
Ben c'est certain, c'est très différent, un et l'autre. Je crois peut-être que devant la caméra, on sent pas le public. On sent que la caméra, elle remplace pas un public, le public qui soit choisi ou pas. Quand on fait une performance ou quand on est sur scène, nécessairement, on sent une attention, on sent une énergie. Tandis que la caméra, c'est très froid, c'est très abstrait à la limite. Donc, il faut un peu inventer un peu son public ou inventer son le regard ou peut-être même il est pas si important, je sais pas, mais du moins il faut qu'il y ait sentir qu'on donne, puis pour donner il faut donner à une caméra, mais il faut oublier que la caméra est là, donc c'est un peu particulier.
Je peux ajouter, oui, quelque chose, bien sûr. C'est que devant la caméra, tout à coup, il y a le caméraman n'est pas content ou l'ingénieur du son n'est pas content. Il faut recommencer et recommencer, ouais, et recommencer. Ouais. Alors, tout est coupé, ouais, puis morcelé, oui. Alors, ça devient, ouais, autre chose.
Ouais. Mais c'est certain que c'est très différent pour ça, le tournage comme tel. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile dans ça, c'est le fait que l'élément de la pluie n'était pas du tout là. Donc, il fallait vraiment, je l'imagine en studio. Puis sur place, c'est pas un petit truc ou un petit caillou, là. C'était une pluie abondante.
Trempée.
Donc, oui.
Et il faisait froid.
Oui. Mais effectivement, le fait de reprendre et reprendre et reprendre, ça fait que c'est autre chose, c'est complètement autre chose.
Est-ce que c'est possible de poser une question en dehors de ce projet-là? Oui, je voudrais juste, pour le bénéfice de l'histoire, de notre histoire, peut-être de transmettre quelques mots sur votre exposition en cours actuellement à la galerie Simon Play.
Ah! c'est la peinture. J'ai l'impression d'être arrivée à quelque chose, et c'était une exploration sur la couleur rouge, d'où on peut percevoir le rouge après l'oranger jusqu'à le rouge le plus foncé, le plus noir qu'on puisse trouver, et d'explorer ces différentes couleurs, ces différentes teintes, et de travailler avec ça.
Alors, je pense qu'on va terminer là-dessus. Avant de complètement clore, simplement vous dire que Bon, on a organisé cette rencontre avec François Sullivan, Mario Côté, Audrey Moncôté, parce que c'est pour souligner les 5 ans du RAIC, le regroupement des arts interdisciplinaires du Québec, parce qu'on voyait dans Françoise notre modèle, notre inspiratrice. Dans le cadre de cet événement bénéfice-là, il y a une gravure de François Sullivan qui est en vente, c'est une activité conjointe avec la compagnie Lucie Grégoire Danse. Donc il y a une gravure de François Sullivan avec un poème de Denise Desautels, sonore et nu. Donc qui est en vente, on a quelques exemplaires. Si la gravure vous intéresse, vous venez me voir. Pendant toute l'année, on essaiera de vendre quelques exemplaires pour aider et la compagnie Lucie Grégoire Danse, c'est un don que Françoise avait fait, mais on s'est associé, donc aussi on a une petite boîte rouge à la fin, si vous voulez participer, vous pouvez mettre des dons dans la petite boîte rouge. Puis encore merci François Sullivan, merci infiniment d'être parmi nous, d'être si généreuse, si inspirante. C'est un honneur pour nous d'avoir accepté de participer à nos 5 ans.
Vous m'avez fait un beau cadeau. Hier soir, il y a eu 20 performances de jeunes artistes et c'était des moments merveilleux. C'était comme 20 poèmes que j'ai reçus. On ne peut pas demander davantage.
Merci.